Notre invité a longtemps été chargé de la surveillance des islamistes en France. Il a été l'un des hommes les mieux informés de Seine-Saint-Denis, le département qui compte le plus grand nombre de fiches S. Bonjour Noam Anouar.
Bonjour.
Entre 2008 et 2015, vous avez été les yeux et les oreilles du renseignement en Seine-Saint-Denis, un policier de terrain, et c'est important. Vous racontez cette histoire dans un livre qui sort aujourd'hui et qui s'intitule « La France doit savoir ». Que doit-elle savoir, la France, qu'on n'a pas su voir l'islamisme radical se propager ?
Écoutez, c'est un livre qui aborde, je dirais, la question centrale de l'islam français et de la lutte antiterroriste, mais également de l'intérieur, je dirais, des coulisses de la police nationale, de l'immigration, sous plusieurs axes. Et effectivement, il y a un certain nombre de choses à savoir, je dirais, de l'intérieur. C'est un regard inédit, justement, d'un fonctionnaire de terrain, parce qu'habituellement, la parole était donnée principalement à des hauts fonctionnaires, à des chefs de service qui lisaient des notes dans leur bureau. Et là, c'est vraiment un regard, je dirais, issu du terrain et une forme d'introspection, c'est-à-dire un récit personnel. Et effectivement, j'ai pas voulu en faire un ouvrage à la fois de contestation misérabiliste, mais...
Non, on comprend ce qui a été votre métier pendant ces années. Ouais.
Et également, je dirais, il n'y a pas de grande révélation fracassante pour dire qu'un tel ou un tel aurait commis tel acte à tel moment. C'était pas non plus le but, mais c'est vraiment un éclairage sur ce qu'est le métier d'un fonctionnaire, d'un agent de renseignement, des services secrets.
Et d'ailleurs, ce que vous racontez, c'est qu'au début, c'est en 2008-2009, le radicalisme islamiste, c'était pas du tout la priorité du renseignement. Votre mission à l'époque, c'était surtout de surveiller les mouvements sociaux.
Voilà, tout à fait, parce que il y a effectivement en haut lieu, dans les corps, les organes de décision de la police nationale, des priorités, des directions qui sont lancées au moment de la création des services et des renforcements des effectifs. Et effectivement, bien souvent, force est de constater que les pronostics manquent peut-être parfois de pertinence. Et avec ma hiérarchie, avec le commissaire Guillaume Ricouard qui a accepté de préfacer cet ouvrage, nous étions parmi les premiers à alerter sur les premiers retours, le risque potentiel des premiers retours et des premiers départs vers la zone irako-syrienne. Et au départ, nous avons été contredits, peut-être même violentés d'une certaine manière par la haute hiérarchie de la police nationale.
Et à quel moment,
nous avions raison.
Et à quel moment le terrorisme est devenu la priorité de votre travail ?
Malheureusement,
à quel moment, comme vous l'écrivez, les fiches S ont fait irruption dans la salle à manger de tous les Français ?
Écoutez, malheureusement, après les attentats de Charlie, je pense que les autorités sont tombées de très haut ce 7 janvier 2015, mais leur grande erreur, quelque part, a été justement de penser que le pire était derrière nous à ce moment-là, ce qui était loin d'être le cas, comme vous le savez.
Oui, vous dites qu'on n'a pas pris la mesure de ce qui se passait, qu'on n'a pas compris qu'il s'agissait d'une lame de fond, et même, vous dites, les protocoles de déradicalisation qui ont été mis en place à l'époque, c'était ridicule, on ne s'attaque pas à l'islam radical comme on pousserait la porte des alcooliques anonymes.
Oui, bien entendu, parce que vous savez, la radicalisation, c'est quelque chose de très complexe, c'est quelque chose qui s'est ancré dans notre société. C'était peut-être même un projet politique qui datait de quelques décennies, puisqu'on a connu une vague d'attentats, je dirais, au milieu des années 90, mais elle avait été déjà initiée par, les résidus de ce qui avait été l'offensive afghane contre l'Union soviétique, déjà à la fin des années 80. Et donc, quelque part, tout ça prend du temps, et aujourd'hui, on parle de déradicalisation comme s'il s'agissait de prendre une aspirine pour soigner un mal de tête. Mais finalement, c'est un peu, ça fait partie des maux de notre société et des institutions, c'est-à-dire cette façon, cette propension qu'on peut avoir à créer des postes, des nouveaux métiers à chaque, finalement, événement de ce type.
Et vous qui avez eu les mains dans le cambouis, justement, qui avez vraiment écumé le territoire de la Seine-Saint-Denis, comment vous vous êtes rendu compte de ce qui se passait ? Comment vous avez vu l'État islamique diffuser son pernicieux venin, pour reprendre votre expression ?
Écoutez, l'État islamique, c'est peut-être finalement qu'un symptôme. C'est peut-être pas le mal, parce qu'avant, on avait Al-Qaïda, avant, nous avions le GSPC, le GIA. Donc, je pense que l'État islamique, à sa disparition, sera remplacé par autre chose de similaire. Et si vous voulez, la grande question aujourd'hui qui interroge, c'est la fracture ou les différentes fractures au sein de notre société. C'est-à-dire que quand on assistait, d'ailleurs je diffuse l'un des tracts de l'État islamique à la fin de l'ouvrage, c'est que finalement toutes ces organisations se nourrissent du rejet et de l'exclusion qui prospèrent au sein de la société française. Et le discours, finalement, le leitmotiv est toujours le même. C'est-à-dire de dire, finalement, la société française ne vous accepte pas, en s'adressant aux jeunes de banlieue, en leur disant, finalement, il y a peut-être une alternative qui vous permettrait de vivre plus heureux ailleurs, ce qui naturellement est faux. Mais
ça, c'est la cause, et il y a la méthode aussi. Et la méthode, c'est qu'ils ont toujours un coup d'avance, notamment sur les nouvelles technologies, ou même, vous le dites, ils ont trouvé de nouveaux endroits. C'est c'est pas dans les mosquées qu'on connaissait que ça s'est passé, quoi.
Oui, voilà, les mosquées, c'était dans les années 90, et effectivement, le problème des services de renseignement français, ça a été de s'asseoir sur ses savoir-faire, c'est-à-dire de se conforter dans ce qui se faisait par tradition. Mais les islamistes tels que Rachid Kassim, par exemple, qui lui était éducateur de la jeunesse, hein, de métier, c'est-à-dire que c'était un animateur de maison de quartier, donc il savait s'adresser à la jeunesse, et il a su utiliser justement les messageries chiffrées pour investir les campagnes, les banlieues, les grandes villes françaises, et drainer derrière lui un certain nombre de jeunes post-adolescents. Hein. On en avait même qui étaient âgés de 14 ans et qui sont partis de façon très autonome vers les zones de combat.
Ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est qu'il est très concret. Vous racontez vraiment comment vous avez travaillé, comment on fait pour recruter des indis, comment on fait pour travailler avec eux, pour être sûr d'eux. Et à travers ces indis et à travers votre travail, est-ce que ces noms de Kouachi, Amimour, Koulibaly, Klein, est-ce que vous les connaissiez? Est-ce qu'ils étaient déjà dans les radars du renseignement avant qu'ils ne passent à l'acte?
Bien entendu. Alors, effectivement, Fabien Klein a transité par la Seine-Saint-Denis avant son départ en Syrie. Hein. Il a été localisé précisément à la mosquée de Stein, je l'explique dans mon ouvrage. Sami Amimour était originaire de Drancy. Il avait été signalé bien avant son départ en Syrie, puisqu'il avait été intercepté alors qu'il était en partance pour le Yémen pendant l'année 2012. Sa fiche a été réactivée par mon service peu avant justement les attentats de 2015, mais encore une fois, il y a eu un problème de gestion des priorités. Et c'est des noms effectivement qu'on connaissait, puisque Kouachi avait été interpellé également dans le cadre de la filière de début de Chaumont. Donc vous voyez, c'est...
Et donc du coup, est-ce que vous vous demandez, est-ce qu'on aurait pu empêcher tout ça? Est-ce qu'aujourd'hui encore vous vous posez ces questions?
Bien entendu, l'affaire la plus symptomatique, c'est celle de Saint-Étienne-du-Rouvray, qui avait été traitée par vos confrères de Mediapart. Donc à un moment, vous savez, moi j'ai ma propre interprétation. Je pense qu'il faut il faut pas se garder de scruter justement l'ouvrage pour essayer de comprendre ma logique. Mais je sais pas si on peut parler. Je peux pas accuser l'État d'avoir laissé faire. Mais je pense qu'il y a eu effectivement une certaine forme de négligence. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est le manque de clairvoyance des autorités d'aujourd'hui, parce qu'on a finalement des personnes qui étaient en poste au niveau des organes de décision du renseignement, qui auraient peut-être pu mettre en place des choses qui auraient empêché cela. Et aujourd'hui, on n'a pas eu, les retours ou les attitudes nécessaires pour faire les bons constats.
Donc voilà. On ne réécrit pas l'histoire, ce serait trop facile, mais on ne masque pas quand même le fait qu'il y a eu des ratés. C'est ce que,
oui, bien entendu,
c'est
il y en
ce
a eu beaucoup.
Voit. C'est ce qu'on voit justement en lisant votre livre, La France doit savoir. Merci beaucoup Noah Manoir, votre livre sort aujourd'hui chez Plon. Vous étiez l'invité du 5-7.